France Bleu RCFM. France Bleu.
Qui est là? Help.
Help.
Qui?
Alors tout le monde, nous allons jouer le jeu de Top Top.
RCFM, 17h-18h, Marie Bronzy.
Top Top.
Bienvenue sur RCFM dans Toc Toc. Ce soir, Mickaël Andréani est avec moi. Bonsoir Mickaël.
Bonsoir Marie, bonsoir à tous.
Depuis les studios ajacciens. Et sachez d'ailleurs que le film dont nous allons parler dans un instant, premier long métrage de Caroline Poggi et Jonathan Vinel, qui sera diffusé ce soir en avant-première au cinéma Le Régent. À 19h, eh bien, sachez que demain, il sera chez vous à Ajaccio, au cinéma L'Ellipse, à 21h. Voilà, pour les auditeurs qui nous écoutent, et je suis ravie de parler de ce premier long métrage, puisque j'avais eu l'opportunité de voir, grâce à Artemar et d'ailleurs, l'un de leurs courts-métrages, Tant qu'il nous reste des fusils à pompe, qui avait remporté en 2014, me semble-t-il, l'Ours de Berlin. Ah oui, ça calme. Bonsoir Caroline Poggi.
Bonsoir.
Bonsoir Jonathan Vinel.
Bonsoir.
Bon ben c'est un plaisir vraiment de vous accueillir. J'ai eu la chance de voir ce film il y a quelques jours, c'était mardi matin, projection à 10h. Ça vous laisse comment dirais-je, sans mots, la première heure qui suit la projection. Et puis ensuite on digère tout ça et on en a beaucoup parlé avec les gens qui ont pu voir ce film et on s'est rendu compte que vraiment c'était bien qu'il existe de jeunes réalisateurs comme vous, de jeunes auteurs comme vous, pour nous proposer un cinéma différent, une esthétique différente et un message différent. On a un petit écho qui tourne. Je le dis à nos auditeurs, on s'en excuse, on va essayer de régler le problème assez vite. Voilà, c'est fait, merci beaucoup. Ce film s'intitule « Jessica Forever ». Vous le co-réalisez, vous le co-écrivez. Comment vous vous êtes rencontrés tous les deux durant vos études ?
On s'est rencontrés à la fac de cinéma à Paris 7 durant notre licence, en fin d'année de licence.
C'était en 2011.
Soyez précise.
À Paris 7.
Ouais.
À Paris 7.
Ouais, mais en 2011.
En 2011, ouais, pardon. Et à la fac de cinéma en licence. Et en fait, on a très rapidement commencé à travailler l'un avec l'autre sur nos films respectifs. Et du coup, en se faisant des retours sur nos travaux de chacun, et très vite, on a commencé à bosser ensemble. C'est quelque chose qui s'est fait assez naturellement parce que je pense qu'on aime les mêmes histoires, les mêmes personnages. Enfin, on vient un peu des mêmes références et peut-être que nos enfants se ressemblaient aussi quelque part. Et du coup, on s'est vite retrouvés. Voilà.
Donc, alors c'est certes générationnel, mais il y avait peut-être aussi des affinités qui allaient dans le même sens, pour des esthétiques assez proches. La première collaboration, c'est sur Chien. Ça se passe ou avant?
Ouais, non, je crois que ça avait commencé sur Chien. Non, t'avais fait un film aussi, Jonathan.
Moi, j'avais fait,
ouais,
quand j'étais à la FEMIS en première année, j'avais un film à faire, c'est le film de première année. Et en gros, on a 10 minutes et il faut faire des films où chacun passe à un poste différent. Moi, j'avais fait un film qui s'appelait Prince Puissance Souvenir. Et à ce moment-là, Caroline était en train de... Je crois que tu allais tourner Chien. Et on se faisait des retours sur le scénario. Après, on se faisait des retours sur le montage. Moi, j'avais participé au montage son de Chien. Toi, tu avais vu une version montage image de mon film.
Enfin, c'était un aller-retour à plusieurs étapes des films.
Donc, il y avait comme ça les retours, les conseils amicaux des gens de cinéma qui démarrent dans le métier. Mais sur Chien, vous avez bossé sur le montage. Carrément, Jonathan.
Montage son.
Et la fin du montage image aussi. T'étais venu me sauver à la fin où j'arrivais plus, je voyais plus rien. Bah, si, t'étais venu deux jours et tu m'avais quand même un peu sauvé.
Alors, l'histoire de Chien, moi, j'aimerais bien qu'on revienne là-dessus, puisque vous allez comprendre une chose chez ces deux jeunes gens, c'est que vraiment, vous avez une vraie signature, une vraie patte et un vrai langage qu'on retrouve dans chacun de vos travaux. Alors c'est drôle parce que vous êtes jeune et quand vous retournez vous dites ah mais tiens en fait on parle de cette même chose depuis le début, ça s'inscrit vraiment dans une œuvre. C'est pour ça qu'il faut dire à nos auditeurs d'aller voir le reste avant de découvrir le 1er mai votre long métrage. Alors Chien, c'est l'histoire d'un homme qui ne reconnaît plus sa meute, ses chiens dans la montagne. C'était
ouais,
ça.
C'était ça, oui. Et en fait, c'était, je voulais partir d'un film, voilà, d'une espèce de vertige en fait de cet homme qui se cherche lui en tant qu'humain, qui se trouve en tant que bête, qui cherche en ses chiens, voilà, quelle est la frontière entre l'homme, la bête, le sauvage, tout ce qui a été, on va dire peut-être aussi conformé par la société. Donc c'est un espèce de film très sensation, enfin basé sur les sensations parce qu'il y a pas de dialogue, donc c'était un truc vraiment d'immersion et qui se vit avec les, quelque part avec les tripes en gros, où on suit cet homme et son vertige en fait dans cette espèce d'obscurité et de nuit dans la forêt. On l'avait tourné à Vizavone le film et du coup voilà, c'est un film très très sensitif et avec des choses un peu peut-être un peu violentes, un peu choc aussi, mais qui se base vraiment d'un rapport de sensations et de sur ce que c'est que la chair, sur ce que c'est que...
Donc il y avait déjà l'idée de violence, ouais. Le questionnement sur qui sommes-nous, quel genre d'humain on est, on veut
la
être.
La solitude, le fait de vivre seul, d'être en marge, de chercher la meute, de chercher sa place dans le monde, de chercher sa place en tant qu'être humain ou pas dans le monde. Je pense que ça, c'était important. Et vraiment, je crois que ce qui suit tout notre travail, c'est vraiment que nous, on demande, en gros, enfin, on laisse une place au spectateur pour qu'il puisse faire un voyage avec le film, en gros. Faire travailler ses émotions, ses sensations et qu'il se laisse aller dans le film. Je crois que c'est important et que c'est quelque chose qu'on retrouve dans tout notre travail et qui était déjà là dans Chien, mais aussi dans les films de Jonathan. C'est une espèce de place où chacun...
Le spectateur a vraiment sa place. C'est aussi ça qui est beau, c'est que... On a souvent des retours très différents sur les films. Il y a des gens, par exemple, qui vont nous dire « Ah, mais j'adore Jessica, c'est hyper doux, c'est pas du tout violent. » Il y en a, ils vont nous dire « Ah, mais ça, c'est horrible. » Et en fait, c'est jamais pareil.
C'est-à-dire, ça m'a beaucoup angoissé, comme moi, par exemple.
Ouais,
c'est ce que je vous ai dit
en rentrée. Il y en a plein qui, justement, nous disaient au contraire que c'est un film hyper doux et que ça leur donnait envie de dormir et que de manger plein de goûters. Alors qu'il y en a, ils disaient « Ah non, mais c'est dégueulasse, j'ai envie de manger bio après. » Il y a plein de trucs hyper différents. Et je pense que c'est ça, c'est que les films, on c'est pas des films qui tiennent le spectateur par la main. Ouais. Je pense que c'est des films qui sont aussi créés pour laisser une grande place. Et du coup, le spectateur peut naviguer avec son vécu à l'intérieur de ça.
Mais est-ce que Jonathan, ce serait une sorte de réaction au monde auquel vous appartenez tous les deux, c'est-à-dire un monde d'images où on reçoit énormément d'informations avec Internet, parce que je sais que ça vous inspire beaucoup, tous les sites Internet, les images, la musique également, et que du coup, vous avez envie de produire une œuvre qui laisse le temps au spectateur de ne pas gober les informations, mais au contraire, le temps de réfléchir, le temps d'apprécier chaque mouvement, chaque mot, chaque cadre, chaque lumière.
Ouais, mais ça part vraiment de ça, je pense. En fait, je pense que la complexité, c'est qu'on a vraiment grandi avec des codes du cinéma populaire, du cinéma américain, du film d'action, des jeux vidéo, donc
qui va très vite.
Ouais, des rythmes hyper effrénés. Et les gens, ça les surprend souvent parce qu'ils, quand on voit la bande-annonce ou quand on voit le visuel, on se dit ah le film il va envoyer, ça va être hyper rapide. Et tu vois, c'est un film qui est assez calme. Mais je pense que c'est, il y avait un courant musical qui faisait ça, qui était un courant assez contemporain dans, je sais pas, au début des années 2010, un truc comme ça, où en fait ils prenaient des tubes, par exemple Rihanna ou des trucs comme ça, et en fait il est ralentissait,
il les ralentissait,
et ça s'appelait le Chop and Screw. Ouais. Et en fait il y a des gens qui se sont dit mais en fait ce que vous avez fait avec Jessica, c'est du Chop and Screw, et je trouvais ça hyper juste parce qu'en fait c'est un truc de,
oui, c'est l'inverse du stretch.
Ouais,
en fait,
une musique était hyper pop et hyper connue pour son côté mainstream, devenir quelque chose de hyper sacré d'un coup, comme presque un chant religieux, alors que c'était du Rihanna à la base. Et je crois que ce qu'on essaye de faire, c'est justement d'emmener ces codes là ailleurs, en fait, de toujours les déplacer ailleurs,
les colorier comme des enfants pour leur donner une autre valeur et une autre puissance. En fait,
vous savez qu'il y avait, il y a un test qui est vérifié scientifiquement pour savoir si un film tient. On écoute le teaser ou un extrait à la radio. Si ça fonctionne, c'est que le film réussit.
Ça fait peur un peu.
Évidemment, je raconte des bobards, mais il n'empêche que je trouve que c'est assez révélateur. Okay. Donc on va écouter le son de votre teaser et vous allez remarquer comme ça fonctionne bien sans l'image. We'll be right back.
Ne t'inquiète pas.
Ça a servi à quoi?
C'était ce qu'on avait de plus beau. C'était pour Jessica. Jessica!
On est là pour toi.
C'est extrêmement apaisant, Jonathan Villeneuve. Non, je vous taquine un peu. Jessica Forever, en avant-première, ce soir au Cinéma La Région à 19h, demain à l'Ellipse à Ajaccio. C'est avec les festivals de l'âme et d'Artemar qui s'unissent pour cette projection. Puis on est trop contents que vous soyez là. Vous avez vu comme ça fonctionne bien
hein même. Ouais, ça fonctionne super bien. C'est vrai que c'est un peu flippant. C'est vrai, j'avoue. Bon.
Mais évidemment qu'il y a des moments très apaisants. Alors on raconte l'histoire, même si vous n'aimez pas raconter les histoires. Ici, il y a une histoire. Donc ce sont des jeunes gens, on va dire entre 15 et 35 ans, entre 16 et 35 ans, extrêmement violents parce que orphelins, et ils doivent, pour se nourrir, pour subsister, pour tenter de survivre dans ce monde qui veut les éliminer, eh bien avoir recours à la violence, et certains y prennent goût. Et puis il y a Jessica, cette mère nourricière immense, cette femme d'une beauté incroyable qui a quasiment leur âge, qui tente de les recueillir un à un pour recréer une famille, un monde où ils pourraient tenter de survivre à cette violence-là. Alors, je ne sais pas si j'ai...
Très bien, si voulais... mieux que moi.
Si vous voulez rajouter quelque chose.
Bah, là, comme ça... Non, mais c'est vrai que c'est juste... C'est le propos du film, c'est qu'il y a vraiment un film sur un groupe et il n'y a pas de personnage principal. Et c'était aussi ça, tout l'enjeu qui était compliqué pour nous. C'est qu'on vient vraiment du court-métrage. Et raconter un court-métrage et un long-métrage, c'est quand même très différent parce qu'il faut tenir le spectateur en haleine pendant une heure et demie. Et nous, on savait à la base que c'est pas qu'on voulait pas faire un film avec une histoire, c'est juste qu'on voulait pas faire une histoire classique au sens où il y aurait le kit du scénario, où il y aurait par exemple toutes les trois scènes, une péripétie, il y aurait plein d'ennemis, il y aurait des histoires psychologiques, des histoires de jalousie, des trucs comme ça dans le groupe. Nous, on savait que c'était vraiment un film basé sur la sensation, on voulait raconter ce groupe avec des éléments sensitifs qui étaient aussi liés à notre enfance, à une espèce de nostalgie de l'adolescence et de la peur de rentrer dans l'âge adulte.
Et dans quelque chose d'assez magique aussi, parce que je pense que le film, il prend vraiment la forme plus du... Comme Jonathan disait que c'était pas la science-fiction, ni de la film d'action, etc. Mais c'est...
Mais on peut dire que c'est un film d'anticipation, tout de même.
Oui, moi je vois plus ça comme un conte, en fait. Je le rapproche beaucoup plus du conte ou de la légende, parce que c'est que des personnages, on va dire, archétypaux. Et il y a la figure du monstre, de la mère ou de la grande sœur, enfin en tout cas de la déesse, quelque part, de l'amoureuse, du fantôme qui
revient.
Mais
ce sont des êtres divins. Les uns et les autres, les protagonistes du film, on les sent comme au-dessus.
Oui, un peu des miraculés, quelque part. Il y a un côté un peu d'ange déchu, d'ange tombé du ciel, de miraculé, d'ange blessé. Et
c'est aussi ça qu'on cherche dans le casting. C'est à chaque fois des gens qui... Quand on voit les gens en casting, il faut qu'on ait l'impression qu'ils ne soient pas vraiment des habitants de la Terre, qu'ils aient un truc un peu angélique en eux. Et je crois que c'est vraiment ça qu'on cherche dans les gens, c'est qu'ils ont un truc qui est un peu au-dessus, je ne sais pas comment.
Oui, mais du coup, comment on travaille ça? Parce que vous avez fait un casting assez long, ça a été difficile de trouver les comédiens.
Ouais, on a rencontré énormément de gens, ça a duré 6 mois le casting. Donc beaucoup de garçons, donc ils ne sont pas tous acteurs, il y en a plein qui font... plein d'autres métiers différents qui n'ont rien à voir avec ça. Et en fait, juste au début, on les rencontrait une heure pour parler de la vie. Un espèce de truc d'attitude, de voir juste comment ils étaient par rapport à nous, etc. Donc on parlait de ce qu'ils faisaient eux, on leur parlait un petit peu du film. Et si déjà dans cette accroche-là, il y avait quelque chose dans la personnalité qui nous plaisait, on les revoyait avec un texte.
Mais est-ce que vous leur dites que par exemple... vous n'avez pas forcément envie d'un acteur qui donnerait des propositions.
Ah
des...
oui, mais ça, ouais, il le capte hyper vite, en fait, parce que, genre, la façon dont sont écrits le texte, enfin, il n'y a pas de tralala, on va dire.
Il n'y a pas de place.
Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est des mots hyper simples. Il y a une recherche de pureté du langage dans le sens où comme c'est des personnages qui n'ont pas vécu dans la société, c'est des personnages qui ne savent pas s'exprimer aussi.
Et qui parlent aussi pour être très direct. Voilà. En fait, il y a un truc où, en fait, quand ils parlent, c'est important et du coup, il faut qu'on écoute la parole. Et, c'est un truc qui est pas trop présent dans le monde ou rarement, parce que même moi, là, quand je suis en train de parler, je fais plein de... J'ai des tics de langage, j'ai un truc où je dis un peu des fois des choses que je veux pas vraiment dire ou sans faire exprès parce que ça va vite dans ma tête. Et en fait, il y a un truc où eux, quand ils parlent, c'est sacré, quoi. Il y a un truc où c'est important et du coup, c'est ce qu'on voulait faire ressentir.
Aussi,
c'est cette importance-là de la parole et du côté, on fait pas de chichi, on fait pas semblant et en fait,
donc
on sait pas mentir.
Donc on gomme aussi une gestuelle qui serait trop exacerbée, des tics de langage, on gomme un maximum
pour
avoir la substantifique moelle et que le spectateur puisse retenir vraiment ce que vous avez écrit.
Ouais, et puis c'est aussi une façon de caractériser ces personnages-là qui sont pas censés être dans le monde parce que le film ne parle pas d'une société précise. Le film est complètement universel et ce qu'on essaie de chercher en filmant même les lieux qu'on filme, c'est on filme une maison, une forêt, une plage, un quartier résidentiel, etc. Et quelque part, comme on a envie de créer une forme de légende, on a envie que cette légende soit universelle, en fait. Et du coup,
ça n'est pas daté. Vous enlevez tous les éléments qui pourraient nous donner une époque ou.
Ouais, et du coup, c'est pour ça que je pense que le film, au début, on sait pas trop où il se passe parce qu'on a plein d'éléments du contemporain et en même temps plein d'autres notamment leurs costumes, entre Moyen-Âge, contemporain.
On pense beaucoup aux skins de jeux vidéo. Et là, je sais, j'impressionne tout le monde. J'ai des enfants. J'ai des adolescents. Donc, on pense vraiment dans les costumes à certains jeux vidéo où vous y avez songé.
Ouais, mais
j'imagine.
C'était même des références pour. Bah, quand on écrivait le personnage de Jessica, il y avait un jeu auquel on jouait, c'était Metal Gear Solid 5. Et c'est un mec, le créateur de ce jeu vidéo s'appelle Hideo Kojima. C'est un peu une star internationale.
Mais c'était quoi dans les années 2000
C'est récent. En fait, lui, c'était dans les premiers, je pense que c'est dans les années 2000, c'était Metal Gear Solid 1. Et là, c'était il y a 2-3 ans, c'était le dernier volet de Metal Gear Solid. Et en fait, il y avait ce personnage hyper énigmatique qui s'appelait Quiet.
Et dans les costumes
Final Fantasy aussi. En fait, c'est plus un truc un peu qui vient peut-être plus d'un courant japonais de jeux vidéo avec l'Heroic Fantasy, un peu l'Heroic Fantasy.
Les jeux vidéo.
Il y a même Raiden, le personnage qui s'appelle Raiden dans le film, celui qui a le sabre, c'est vraiment un hommage à Raiden de Metal Gear Solid 2, qui est un personnage justement dont moi j'étais tombé amoureux quand j'étais petit parce que c'était une espèce de guerrier androgyne avec des cheveux longs qui n'était pas du tout dans les codes justement de ce qu'on pouvait attendre dans un guerrier de jeux vidéo. Il y a quelque chose de très très étrange et très doux dans ce personnage, mais qui en même temps était un personnage violent. Et c'est quelque chose qui m'a profondément marqué. Là, c'était une espèce d'hommage à ce personnage, de l'appeler pareil, de lui mettre.
Et ça vient aussi même d'un truc aussi un peu plus vaste, mais de Peter Pan par exemple, les enfants sauvages, tu vois. L'idée, c'était vraiment de se dire aussi que ces personnages-là, vu qu'ils avaient grandi hors du monde, hors du temps, ils n'avaient pas de code. En fait, ils pouvaient, pour eux, tout avait de la valeur.
On pense aussi à Sa Majesté des Mouches. Oui, on pense à plein de choses comme ça, de littérature ou de cinéma adolescent ou de jeux vidéo. Et en même temps, c'est très original. Vous voyez ce que je veux dire ? Évidemment qu'on sent les références, mais à aucun moment on est dans la redite. Et c'est ça qui est très fort chez vous. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est pour ça que votre cinéma nous plaît. C'est parce que vous êtes absolument unique. Et non, mais c'est...
Oui, mais je ne vais pas trop l'expliquer après.
Mais on vous remercie pour ça. Et on se demande comment vous travaillez tous les deux. Pour l'écriture, par exemple, vous échangez des choses ou...
On n'écrit jamais au même moment. En fait, on écrit... Il y en a un qui commence, par exemple, qui va avoir une idée, il la met sur le papier, on a un code couleur sur les documents Word. Et après, par exemple, Caroline va retoucher, elle rajoute des trucs. Et au début, on ne se parle pas vraiment, on écrit comme ça. Et après, je pense qu'on a... un peu défini des communes, on arrive à se discuter et tout, mais quand on travaille à deux, ce que ça nécessite, c'est vraiment énormément préparer. Par exemple, pour le tournage, on sait exactement quel plan on va tourner à l'avance, on va sur les lieux, on fait le découpage très précis.
Vous avez fait un premier film presque sans les acteurs, quoi. Vous êtes allé sur les lieux, vous avez...
Ah oui, mais en fait, la prépa est presque plus épuisante finalement que le tournage, parce qu'en gros, en fait, le but d'une co-réalisation, c'est que Jonathan et moi, on ait la même image en tête. En fait, vraiment, qu'on arrive sur le plateau, que ce soit lui ou moi, quand on va voir l'acteur, on va lui demander exactement la même chose et on a la même image en tête. Donc tout le travail qu'il y a en amont, Il y a des photos. Nous, on se met à la place des acteurs, on fait les dialogues à leur place. Mmh. On leur donne la réplique s'il faut. On a avec les cadreurs, on a exactement les cadres. On sait où va être la caméra. Et en gros, tout ce travail-là est presque très, très, beaucoup plus intense, on va dire, que le tournage, qu'on arrive au tournage finalement. Et on va dire, il y a toujours des problèmes, forcément, comme sur un tournage, mais...
On n'était plus reposés au tournage. Moi, je sais que le premier jour de tournage, j'étais vraiment hyper content. J'ai l'impression que c'était les vacances, parce que je sortais tellement d'un truc de prépa horrible, où il y avait trop de trucs à faire, que en fait, je me suis dit, putain, c'est trop cool, un tournage, 8 heures par jour, c'est trop bien.
Vous avez choisi de le tourner en numérique ?
Ouais, mais justement, parce qu'on avait fait un film en pellicule juste avant, After School Knife Fight, et c'était la première fois qu'on utilisait ce médium, c'était très nouveau pour nous, et nous, on est vraiment des enfants aussi de la pellicule, et en plus, pour ce film, on a vraiment poussé...
Vous étiez allé à Cannes pour ce court-métrage.
Pour le court-métrage d'avant, on était allé à Cannes, mais c'est vraiment un truc où c'est beaucoup plus angoissant, parce qu'il y a toujours cette idée du matériel qui coûte cher, qui part, des pellicules, on peut pas faire tous les plans qu'on veut. Et là, on savait que pour ce film, c'était aussi un film qui s'influençait vachement l'image numérique des jeux vidéo, et du coup, justement, on a vraiment poussé le côté très numérique des images pour créer une impression d'hyper réalisme. En fait, tous les détails, tous les arbres sont hyper détaillés, et du coup, je pense que ça crée aussi une distance, et ça crée ce monde un peu étrange qui a l'air réaliste, mais en même temps qui l'est pas trop, et qui du coup permet de surélever les choses.
Et puis c'est très exposé au niveau de la lumière, c'est très clair. Vous parliez de douceur, ils ont pour habitude d'aller faire la sieste tous ensemble, puis de prendre le goûter, le petit déjeuner tous ensemble. Bon, mais ça, c'est des relents de votre propre adolescence, vos fantasmes d'adultes.
Mais je pense que
ne veulent pas devenir grands.
Ouais, puis c'est cette espèce de rêve d'avoir toujours
des copains,
une bande, des copains, et en fait d'avoir aussi, du coup, de redéfinir les règles entre nous, en fait, d'avoir ta famille de cœur quelque part, et que quelque part dans cette famille de cœur, il y a une autre société possible et d'autres règles, etc., d'autres rituels finalement, comme le sont les petits déjeuners ou quand ils accueillent le nouveau dans le groupe, Kevin, et qu'ils lui offrent tous des cadeaux, en fait. Donc ce côté de recréer du collectif ailleurs, hors du monde. Et ça passe forcément par des habitudes très simples, en fait, et qui sont des choses rassurantes. Moi, je sais que les goûters, l'heure de la sieste, ou même des sons chez moi quand je suis chez mes parents, etc. Il y a, je sais pas, quand on entend des sons de télé, de matchs de foot, etc. C'est des sons qui me rassurent, parce que ça me ramène à mon enfance. Et je crois que la sieste, les goûters, tous ces machins-là en font partie, en fait. Mmh. Et quelque part, comme c'est des enfants perdus et qui ont une certaine violence en eux comme une maladie, pour moi, ils ont besoin de ça, en fait, pour être rassurés, parce que c'est des choses simples, c'est des choses pures, en fait. Dormir avec quelqu'un, c'est quelque chose qu'on fait rarement, parce qu'on a l'impression qu'il faut être en confiance, qu'il faut avoir atteint un certain degré d'intimité, etc. Et du coup, c'est quelque chose que, quand on le fait, c'est... En général, on passe un pas avec la personne quand on dort avec quelqu'un, enfin, même que ce soit un ami ou quoi, il y a quelque chose de nouveau qui se crée.
Alors, tout de suite, on pense à la place de la sexualité dans ce groupe, puisqu'il y a 12 garçons, je crois, je dis pas de bêtises, 11 garçons, et Jessica, donc ça fait 12 protagonistes. Et évidemment, on voit leur corps, ils travaillent beaucoup, ils s'exercent pour pouvoir être combatifs. Donc, on pense à la sexualité, et qui arrive, bon, je vais pas déflorer le film, mais qui arrive tard, on pourrait même parler de sensualité plus, mais qui plane durant tout le film pour arriver tard dans la narration. Pourquoi ? C'est encore l'histoire de l'enfance et de l'adolescence ?
Ouais, je pense que c'est vraiment ça. C'est un truc où quand on est enfant, on n'y pense pas, en fait, tout simplement. Et pour nous, c'était une question qu'on voulait pas mettre au cœur du film, parce que justement ça crée des problèmes de jalousie, d'autres histoires périphériques, et du coup ça peut aussi abîmer ces questions-là dans un film.
Il fallait les rendre asexués quasiment.
C'était un peu ça l'idée, c'est justement pour ça qu'à un moment il y en a un qui justement sort un peu de ces clous-là.
Qui est à la marge,
Et qui découvre un autre monde. Mais ouais, pour nous c'était vraiment un truc de... où en fait ils savent pas, ils connaissent pas, c'est des enfants en fait. Et je pense qu'après vraiment clairement, tous nos films se racontent l'histoire d'enfants qui refusent de grandir et de devenir adultes, et c'est aussi ça, Jessica, c'est un truc de recréer tous ces petits rituels, des goûters, de dormir ensemble,
c'est des personnages qui sont complètement... souvent, je les compare à des funambules qui marchent sur une corde raide, et que la moindre émotion les fait tanguer d'un côté ou de l'autre, que ce soit de la violence ou de l'amour extrême. Et quand l'amour arrive, la sexualité, on va dire... quelque part, elle a aussi une porte de sortie possible, parce que Jessica, c'est pas un gourou non plus, en fait. Mais après, arrivent d'autres choses dans le film qui font que ça rebalance d'un autre côté. Et du coup, je pense que aussi, si la sexualité n'arrive pas, c'est que quelque part, ils savent très bien que ils peuvent, ça peut aussi mettre en péril toute leur famille, parce que en fait leur condition d'existence, c'est aussi d'être au sein de cette famille-là, en fait. Donc c'est quelque chose auquel ils n'y pensent pas, et que quelque part, ouais, c'est, par exemple, il y en a aucun qui est amoureux de Jessica, parce que je pense que ça a pas de sens. C'est comme être amoureux
de sa mère,
de sa grande sœur ou de sa mère, mmh. Presque de son idole aussi, j'ai l'impression. C'est un truc d'idole aussi. J'ai l'impression que, par exemple, on pourrait pas être amoureux de Madonna. Enfin, dans le sens amour, c'est des gens qui sont tellement...
Moi, je serais amoureux de Madonna.
Non, mais d'un truc de presque d'image, en fait, de soleil et de plus qu'une personne,
non, mais
quelque chose qui irradie.
Mais un amour divin.
Oui, un amour divin, ouais, clairement. Mais
après, de croyance. Ce qui est marrant aussi dans le film, c'est qu'il y a plein de gens qui ont vu... qui sont racontés.
Il n'y a rien qui est marrant.
Non, mais j'utilise mal le mot. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de gens qui ont vu.
Il faut pas dire ça quand même.
Il y a plein de gens qui rigolent.
En fait, quand on l'a fait à Toronto, la projection,
oui.
Et bien, il y a plein de gens qui ont rigolé.
Mais oui, mais les moins de 40 ans.
Non, parce qu'en fait, je pense que c'est un rapport.
On est trop angoissé quand on a passé cette.
Il y a les gens qui rient.
Non, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'absurdité dans le film. Des choses absurdes. Et qu'en fait, l'absurde, justement, les gens peuvent y répondre de plein de manières différentes. Il y en a qui angoisse, il y en a qui
les réactions sont très diverses, hein.
Et il y en a qui rigolent. Et je pense que
c'est
l'absurdité qui amène des réactions hyper étranges. Que des fois tu dis, pour le moment où il y a la scène des cadeaux, tu dis mais pourquoi, ouais. Et il y en a qui rigolent, et il y en a qui ont une larme. Enfin, et c'est l'absurde, en fait, qui amène ces réactions là.
Et cette naïveté,
ouais,
de l'enfance. Alors moi, je vous fais un cadeau avec un morceau de musique, parce que quand je vois votre cinéma, même si j'ai pas tout vu, je pense à ce morceau de Sébastien Tellier. Il est pour vous. Il date de 2008 et il s'appelle L'amour et la violence. L'amour et la violence, un titre qui date de 2008. Est-ce que ça pourrait être dans votre, je sais pas moi, bible, book d'influence multiple, Jonathan Vinel et Caroline Pogge?
Pour moi, ouais. Carrément, ouais. Mais c'est marrant parce que j'avais complètement oublié ça et j'écoutais beaucoup cet album. Du coup, il y a 10 ans maintenant, je me dis, et je me suis pris un gros kick d'adolescence. Là. Genre vraiment, il y a plein de choses qui me sont remontées. Et je crois que quelque part, nos films parlent vraiment de cette espèce de jaillissement de souvenirs et de nostalgie. Et là, j'ai pris un gros boost vraiment en écoutant ça.
Ça pourrait même être une chanson dont, quand on écrit des voix off dans les films, à chaque fois on écoute des musiques. Mm-hmm. Je pense que c'est un truc qu'on pourrait...
Oui, un personnage pourrait clairement dire ça dans le film, en fait. Ouais. Chanter ça, mais vraiment, en fait. Et toute cette montée un peu... T'aurais presque envie de le faire partir en gros boom derrière. Et puis
aussi, ce qui m'a fait penser à ce morceau, c'est les passages que l'on retrouve dans vos films où d'un coup... les décors disparaissent, il n'y a plus que le corps, il n'y a plus que la danse, le mouvement et la musique. Et vous faites ça magistralement bien, et d'ailleurs ça revient dans votre travail. Ce sont des respirations, des transes.
Je crois que c'est une façon de communiquer pour nos personnages, clairement en fait. Je pense que c'est justement là où ils n'arrivent pas à mettre les mots. Ils mettent le corps et d'un coup, il y a une espèce de transe collective. Et du fait aussi que le film... se base sur l'histoire d'un groupe. Il fallait raconter vraiment ce groupe et du coup raconter le relais d'émotions entre eux.
Vous leur dites comment bouger dans Jessica
non,
Forever
c'est ça qui est... Non, on leur dit pas comment.
En fait, ce qui est marrant dans la scène dont tu parles, la scène de danse dans Jessica, je pense que c'est presque un des seuls moments où ils ont eu une carte blanche. Et du coup, je crois que c'est vraiment ce qu'ils donnent, c'est ce qu'ils sont.
Voilà. Ça leur fait du bien.
Ouais, voilà. Et du coup, c'est vrai que tu vois, au final, les danses de chacun, donc ceux qui sont un peu plus timides et ceux qui vont à fond.
Il y a les personnalités qui ressortent. Ouais, c'est ça qui était beau, c'est qu'en plus, ils n'avaient pas vraiment trop écouté cette musique avant, donc il y en avait qui trouvaient ça vraiment hyper bizarre. Ils disaient, mais c'est pas une musique, on peut pas danser, il n'y a pas de kick et tout.
Ouais.
Et c'est ça qui était beau, c'était étrange. Et c'est une scène qui, moi, c'est ma scène où j'ai le plus d'émotions dans le film, parce que j'ai l'impression que c'est comme si on mettait un thermomètre à l'intérieur d'eux. Et qu'en disant très peu de choses, ils racontent des montagnes entières. Et je crois que c'est ça qu'on aime dans la musique, c'est que notre musique, dans les films, elle a une place hyper importante parce qu'elle a une place de narration. En fait, c'est pas juste de la musique qui est là pour faire passer le temps, ou juste on la met parce que c'est cool et tout.
Ouais, c'est protagoniste.
Vraiment, un truc où, en fait, elle permet, c'est ce que tu disais, Corinne, c'est qu'elle permet d'accéder à l'intériorité des personnages. Et c'est un peu comme les voix, vu qu'ils sont hyper timides, hyper étranges, ils savent pas dire les choses.
Idem pour la voix, c'est très important dans votre cinéma.
Oui, parce qu'en fait, c'est l'idée du journal intime, en fait. C'est le truc où tu peux pas dire aux autres parce que t'as honte, parce que t'as peur, parce que tu sais pas comment faire, et du coup tu te le dis à toi-même. Et je pense que ça fait un pacte avec le spectateur.
Oui, ça laisse une place au spectateur, c'est-à-dire que t'as le voyage du film, le voyage de la voix off, le voyage de la musique, et toi en tant que spectateur, du coup tu te balades entre tous ces voyages-là et tu cherches à recomposer les choses, etc. Il y a des musiques que tu vas vraiment prendre avec le ventre, des voix off qui vont, des mots qui vont t'émouvoir d'un coup ou pas. Mais il y a vraiment un truc en fait où toi, en tant que spectateur, tu oscilles entre tous ces différents voyages en gros que les personnages te proposent.
Dans Tant qu'il nous reste des fusils à pompe, il y avait aussi, me semble-t-il,
une scène de danse.
Ouais,
il y avait une scène de danse sur fond noir où on les voyait tous
sur
danser.
Fond noir, c'était fond noir, assez tribal.
Ça ressemblait à une transe, carrément. Ouais. Mais je crois que pour nous aussi, la musique, dans ce qu'on écoute, il y a un truc où on aime bien le côté un peu libérateur et l'exutoire, en quelque sorte, de la musique.
C'est des musiques qui défoulent et qui sont souvent assez extrêmes. Moi, je sais que j'étais dans un groupe de métal quand j'étais jeune, je faisais de la basse, et c'est un truc où j'ai toujours adoré la musique très très violente et très extrême, mais en même temps qui contenait vachement de beauté et de mélodie. C'est ce que je trouvais dans l'emo, la musique screamo ou dans le black metal.
Ouais.
C'est des musiques qui sont très violentes, mais en même temps, pour moi, c'est pas juste parce qu'il y a un peu ce cliché de dire ouais, c'est que du bruit, des gens qui gueulent et tout, alors que pour moi, c'est vraiment, il y a un côté ouais, vraiment, t'es en crise d'ado et t'as envie d'écrire des poèmes dans des cimetières. C'est un truc qui me plaît, que je pense qu'on retrouve aussi dans nos films. Et c'est ce qui nous plaît aussi, c'est que les musiques qu'on met dans nos films, c'est des musiques qui sont assez peu représentées au cinéma. Par exemple, le black metal, c'est pas un truc très courant, quoi. Et nous, je pense que aussi, c'est presque un truc personnel, comme un cadeau personnel qu'on se ferait de mettre cette musique dans un film à un gros niveau.
Et la musique classique aussi, qui est pas votre univers au départ, mais vous êtes allé chercher, écouter plein de choses. Vous l'avez dit en interview, on vous a entendu parler de Purcell ou encore de Monoville. Vous allez chercher, pas forcément dans votre esthétique.
Non, moi, je sais que j'écoute vraiment de tout, quoi. Ouais. Je peux écouter des musiques amérindiennes, quand je peux écouter de la happy hardcore, j'écoute vraiment de tout. Après, il y a forcément les styles que je préfère, mais C'est en fait quelque part
c'est un outil supplémentaire.
Ouais, à la narration, à chaque fois, c'est en écoutant un album, une musique, c'est la petite étincelle en fait, la lueur. Et, et je trouve que quand une musique arrive à faire ça, que ce soit avec les paroles, avec un air, avec un kick, pour moi j'ai tout gagné en fait là à ce moment-là. C'est la personne qui l'a faite m'a fait un cadeau en fait, clairement.
Et l'eau, le corps, la nage, ça aussi c'est.
Mais ça, en fait, c'est des choses qu'on fait.
Vous rendez même pas compte.
Non, mais il y a pas de métaphore de quelque chose.
Mais ça revient.
Soit. Ouais, ça revient.
Moi, j'ai fait la natation.
Moi, j'ai grandi au bord de la mer.
C'est ça. Non, on n'a pas dit que vous aviez grandi à Ajaccio. Hein.
Ouais,
on reste discret.
Non, mais je pense que
c'est pour ne pas avoir la pression demain. Voilà, ça va être compliqué. C'est demain à 21h à l'Ellipse.
Ouais, il y a toute ma famille derrière, mon papa qui m'écoute là, je sais. Non, mais l'eau, c'est comme le feu, enfin, c'est comme la forêt, la nature. Oui. Je crois qu'il y a un truc aussi, on aime bien filmer la nature en fait, dans nos films, et la transcender quelque part, l'amener aussi ailleurs et injecter la magie en fait.
Non, puis c'est pas mal parce que c'est toujours en parallèle avec les cités-résidences où vous gommez toutes les infos, et donc on est dans quelque chose de très fabriqué avec la nature complètement pure et libératrice. Et un coucher de soleil d'un coup dans une nature incroyable, parce que la Corse, elle joue son rôle, sauf que elle joue un rôle, c'est la Corse, mais ça n'est pas dit, c'est une île, et c'est comme si c'était l'une des comédiennes aussi de ce film.
Ah oui, mais je pense qu'elle est comédienne entièrement du film.
Elle est terre d'accueil,
c'est juste qu'elle a un nouveau costume, ouais. Parce qu'elle a de la magie qui arrive, c'est comme si on l'avait mise en scène autant que les personnages en fait, parce que quelque part, la Corse, l'île, comme c'est dit dans le film, c'est aussi le reflet de l'intériorité des personnages, c'est aussi leur solitude, c'est aussi l'enfermement, mais en même temps quelque chose de très grand, de très fort, de très puissant, de colossal, parce que il y a cette idée-là, quand ils sont à la rivière, quand ils sont devant les couchers de soleil, sur la plage, un truc d'infini, et elle les représente, en fait.
Elle est magique et chaleureuse aussi.
Ouais.
Et parce qu'il y a un truc qu'on a vachement retravaillé aussi, toute l'ambiance sonore, c'est que des insectes qu'on trouve pas en Corse. On a mis beaucoup de... Non, mais on a vraiment voulu
pour
essayer de déplacer les choses, justement, et d'en faire un pays un peu magique. On a mis beaucoup d'insectes qui viennent de Thaïlande.
Oui, mais quelque part, en fait, l'idée, je pense
étrange,
que qu'on filme Toulouse ou qu'on filme la Corse, c'est de reprendre des lieux qui nous sont familiers. Et de les amener
c'était
ailleurs,
du côté de chez vous. Hein,
moi, j'ai tourné. Même les fusils à pompe, c'était tourné
dans
mon village.
Ouais.
Et là, on a repris. En fait, on a vraiment tourné chez nous. Mais le premier plan de Jessica, c'est sur le toit de ma maison. Et le lycée, à la fin, c'était mon collège. Donc, c'est vraiment aussi ce goût de retravailler avec des éléments qu'on connaît. Et c'est pareil pour Caroline. C'est que
et de réinjecter l'histoire à l'intérieur de ça. Parce que moi, je me souviens, quand je tournais Chien, par exemple, ce premier plan en quad avec ce mec, avec ses trois chiens... Quelque part, c'est une route que tu connais, c'est la route de Canal, je crois. Et en fait, tu l'as fait toujours pour aller faire des randos. Et d'un coup, là, t'écris ton film, bam, tu tournes sur cette route. Il y a tout qui se met en scène, il y a ce chien, machin, tous les gens qui travaillent pour mettre cette image en scène. Et ça devient hyper magique, même le tournage. Enfin, il y a un truc où en fait, tu t'immortalises quelque chose aussi. Enfin, t'immortalises un lieu, comme t'as envie d'immortaliser des amis. Nous, dans nos films, il y a beaucoup de gens aussi qui sont pas acteurs, qui sont des amis.
Mais de toute façon, tous les gens qu'on filme, c'est des gens qu'il faut qu'on aime à la base et avant, et on les a rencontrés. Je pense que si on n'est pas quelque part amoureux d'eux, on n'aura pas envie de les filmer parce que on se dit que c'est pas important. Enfin, il y a un truc où c'est vraiment, un truc d'amour.
Oui, c'est pareil avec le lieu.
Un mot sur le pacte qui distribue le film.
Le pacte, non, mais gros soutien, et c'était une chance inespérée au début d'être avec eux, parce que c'est vrai que c'est des films quand même particuliers, et du coup ils nous ont fait confiance, ils ont été là super tôt sur le projet.
C'est un film de genre, hein.
Film de genre, non, mais c'est ça, et du coup c'est ils ont été vraiment hyper chauds, dès le début, ils avaient à peine, on leur avait pitché un truc, le titre.
Parce qu'ils ont distribué de très très gros films. Hein.
De très très gros films. Et du coup, non, c'est vraiment une super chance, et je sais qu'ils se battent à fond pour le film, et ils sont vraiment.
Exister, parce que c'est pas des films évidents à faire exister.
Et ils se battent vraiment pour auprès de chaque salle pour dire ils sont jeunes, il faut que le public il les trouve, il faut que le public voit ces films là, il faut que ces films là aient le temps d'exister et une place, et il faut que les gens en parlent, il faut que ça existe quoi.
Sorti le 1er mai pour Jessica Forever, il y a Michael André à Nikita à Ajaccio, on lui a demandé de s'intéresser à l'année 2014.
Toc toc, c'est son année.
Michael, pourquoi l'année 2014? Parce que ils font quelques cours, et puis quand ils font un cours ensemble, il y a l'ours de Berlin, c'est comme ça tombe. Non mais c'est un truc de fou qui vous est arrivé quand même. Du coup, on s'en fiche des prix maintenant. Quand on va à Cannes, quand on va à Berlin, quand on va à Clermont... Ouais, non, ouais, ça vous arrivez là.
C'était fou. Moi, c'était vraiment mon premier court-métrage. C'est le premier festival où j'allais. Et du coup, ouais. c'était n'importe quoi. On n'a pas vraiment.
Mais encore maintenant, quand on regarde la remise des prix de cérémonie de ce genre, moi, je repense et j'y crois toujours pas. Je revis les émotions du moment parce qu'en fait, on n'y avait jamais pensé.
C'était
en fait.
Pas vous, en fait.
Non. Ouais. On n'y a jamais pensé.
Le plus dur, enfin, et le plus beau, c'est que je pense qu'on n'existerait pas sans ce prix, parce que vu que c'est des films très étranges, je pense que quelque part, même avec ce prix, Les Fusils à Pompe, les gens nous disaient, mais pourquoi, c'est trop bizarre comme film, ça ne devrait pas avoir des films comme ça. Et je pense que le fait d'avoir un prix prestigieux sur un film comme ça, ça l'assoit, ça l'appuie, ça dit,
oui,
vous avez
le droit d'exister, c'est hyper important. Oui, et le film derrière a fait plein de festivals, il a marché.
Mais grâce aussi à ce prix, parce qu'en fait, ça l'a comme gravé, quoi. Ça disait qu'il y avait des gens qui disent que c'est important.
Michael, vous n'auriez pas genre un teaser ou...
Oui, bien évidemment, un petit trailer.
Ouais.
Bien sûr, pour
c'est
ce premier court-métrage.
C'est un véritable ajaxien, vous. Hein.
Ah, ouais. Il le faut. Au premier court-métrage en commun, on le rappelle bien sûr, hein, pour vous deux. Ours d'or à Berlin, 2014. Synopsis en quelques mots. Dans la chaleur de l'été, dans un village vidé de ses habitants, un jeune homme veut se suicider. Il fait alors la rencontre d'un gang armé. Écoutez un extrait.
Il avait le même âge que moi. Il était blond avec des cheveux longs. Il est mort il y a 14 jours. Le 13 juillet, il se lève vers 11h30. Le soir d'avant, il a regardé un match de basket. Orlando contre Chicago Bulls. Il se lave les cheveux. Il se brosse les dents. Il met son jean bleu clair, ses Nike Cortez et le pull à rayures que je lui avais offert. Il ouvre la malle du salon et prend le fusil à pompe de son père. Il sort par la baie vitrée. Il est dans son jardin. Il marche vers les mini-cages de foot et s'assoit. Il ouvre la bouche et met le canon du pompe à l'intérieur. Il tire.
Extrêmement apaisant également.
Non.
Donc, là, c'était
on
donc.
A que de la chance.
Ouais, tant qu'il nous reste des fusils à pompe, la baie vitrée, les cages de foot, ça c'est un truc de chez vous, ça, Jonathan, de l'enfance, de la maison.
Ouais, c'est la baie vitrée. Ouais, il y en a plein partout dans ma rue. Plein de cages de foot où il y a même pas de gens qui jouent au foot et plein de. Ouais. C'est un truc qui m'a marqué. Ouais. Quand j'étais petit, je croyais que les quartiers résidentiels c'était que chez moi ou aux États-Unis. Après, j'ai commencé. Enfin, je suis allé à Paris, j'ai vu qu'à une heure de Paris en banlieue, il y en avait partout. En fait, ça m'a un peu rendu triste. Je savais pas qu'il y en avait autant.
Ouais, du coup, vous faites péter la baie vitrée, mais on n'en dira pas plus dans l'un de vos films. Allez savoir lequel. Michael, on a pensé à du cinéma, même si on a bien compris que leurs sources d'inspiration, elles sont multiples, que ce soit la musique urbaine ou le métal.
Le
rap US, ou encore la musique classique, ou Internet, les différentes applications. YouPorn, j'ai entendu.
Bah ouais.
Ça c'est Caroline, voilà, c'est pas Jonathan.
Non, mais c'est quelque part, on a grandi aussi avec cet internet-là, en fait. On va pas le nier, et je pense que
c'est
notre génération. Et on a fait un film sur du coup ces images pornographiques, et en essayant justement de les réenchanter, de les amener ailleurs, en fait, parce que c'est pas du tout un film pornographique, ça utilise juste ces archives-là. Donc voilà, c'était un outil de travail, une influence.
Alors il y a les jeux vidéo également, et on s'est dit tiens, en cinéma, à quoi on peut penser dans leur vécu. Alors outre les gros films américains que vous avez dû voir forcément à l'âge que vous avez, ben comme moi aussi, on a été élevé avec ça. Il y a quand même Michael, on a pensé tous les deux à un grand classique.
Ah oui, puisqu'en plus vous parliez d'ailleurs de musique classique tout à l'heure, donc on peut lier cela avec une œuvre, parce que la musique classique est aussi en fil rouge dans cette œuvre cinématographique. C'est Orange Mécanique de Stanley Kubrick au tout début des années 70.
C'est facile, ça va, c'est facile, mais on y a pensé quand même.
Voilà, tout simplement, avec une scène qu'on a sélectionnée, la bagarre dans le théâtre avec le gang de Billy Boy, avec donc en fond musical du Beethoven, la 9e symphonie. Écoutez.
Ce gros sac tout poids creux de Billy Boy empoisonne. Que racontes-tu? Grosse outre pleine de mauvaise huile, à mauvaise frite, graillon plus haut. Viens t'en prendre dans les camouilles. S'il te reste des camouilles, triste nuque en gélatine. On y va, les hommes. Thank you.
histoire de bandes, de meutes, sous fond de musique classique, la neuvième de Beethoven. Vous l'avez vu ce film ?
Moi, je l'ai vu, mais je dois avouer que il y a très longtemps, non. Je l'ai vu, c'est mon père qui m'en avait parlé, je l'ai vu, mais en fait, je m'en rappelle absolument pas. Ça m'a vraiment donné envie de le revoir, surtout qu'on fait on a mis une musique de Orange Mécanique dans le film, mais en fait moi au moment où on l'a mis, j'avais complètement oublié qu'elle était dedans, quoi.
Et que vous l'aviez vu.
Je l'avais vu, mais en fait c'était pas un truc où
après, la teneur du film,
on se disait est-ce qu'on va la mettre à cause de ça, et après on s'est dit oh, on s'en fout, ça marche, on la met quand même. Mais c'était pas du tout une volonté de faire un clin d'œil, c'est ça qui est marrant.
Mais tu te souviens, enfin moi je sais que je l'ai vu aussi vers je pense 14 ans, et je me souviens vraiment de scènes, je pourrais pas raconter l'histoire, mais je me souviens de scènes dans une cuisine assez anxiogène, je me souviens,
et de bandes également.
Oui, de la bande bien sûr,
de costumes, de costumes communs.
Ouais, mais je me disais en fait s'il y avait pas Jessica, ça serait comme ça en fait. En fait voilà,
c'est ça.
S'il n'y a pas Jessica, ça serait ça.
Ouais.
Et c'est ça qui me faisait sourire. Ben après,
l'un des personnages de votre film, voilà. Donc, puisque le titre, Jessica Forever.
Mais non, mais moi j'ai les souvenirs de ma mère qui a été le voir alors qu'elle n'avait pas l'âge et qui m'avait raconté. En fait, on avait menti pour aller le voir, on s'était fait griller parce que c'était des films qui étaient interdits aux moins de 16, je pense. Moins de 18,
largement, oui.
Moins de 18, même, je pense.
Ouais.
Et du coup, voilà, donc moi je l'avais vu assez jeune aussi avec beaucoup de curiosité en me disant c'est quoi ces films interdits.
La violence était telle qu'évidemment il y avait une interdiction de voir ce film avant l'âge de 18 ans, et l'histoire d'une bande également qui surréagissait par rapport au capitalisme et à la société, et puisqu'il n'y avait pas de mère protectrice ou de grande sœur comme Jessica pour les contenir. Merci beaucoup
à tous les deux d'avoir été
nos invités, Caroline Poggi et Jonathan Vinel. Vous présentez donc votre premier long métrage Jessica Forever avec le festival Artemar et le festival de l'âme. C'est ce soir à 19h au cinéma Le Régent, et puis demain à 21h au cinéma L'Ellipse à Ajaccio, à domicile pour Caroline. Et la sortie officielle du film, ce sera le 1er mai. On croise les doigts pour vous et on continue à vous suivre, puisque je le redis, ce film s'inscrit vraiment dans une œuvre, et vous allez continuer à travailler ensemble.
Oui, bah, carrément. Ouais.
Peut-être. Merci beaucoup. Merci Michael Andréani.
Merci Marie, merci à tous les deux.
Ajaccio, qui vous accompagnait, qu'on salue un peu l'équipe.
Martin Pasquale à la technique.
Salut Martin, et salut à Joël Colombagne qui réalisait cette émission. On se quitte, époque nécessite, avec Avilette. Oh.